Pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Bonjour, un nouveau générique, une nouvelle voix, mais rassurez-vous, vous écoutez vraiment C'est pas du vent sur RFI. L'émission s'est juste adaptée au nouvel habillage de la chaîne. Quant à la voix, vous retrouverez celle d'Anne-Cécile Bras dès la semaine prochaine. Voilà pour les précisions, on passe au programme du jour. Nous serons d'abord avec François Meurice, le rédacteur en chef du magazine Terra Eco, qui nous présentera le numéro du mois d'avril où il est question de marche à pied, de la mafia napolitaine et du moine bouddhiste Mathieu Ricard. Notre deuxième invité, le photographe Alain-Gilles Bastide, s'est rendu à Tchernobyl. Il en a même ramené des photos, mais aussi et surtout un livre DVD pour une opération humanitaire à destination des enfants contaminés, Tchernobyl Forever. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du scandale des déchets toxiques des bases militaires avec un reportage aux Philippines.
Oh,
Mon mari et une de mes filles ont eu des problèmes de santé. Au début, c'était des problèmes de peau, et puis progressivement, ils ont perdu la voix. Ils ne pouvaient plus parler. Mon mari a commencé à avoir des boules sur le corps. On l'a emmené à l'hôpital et il est mort 3 jours après. Quant à ma fille, soudainement, elle a eu des problèmes au cœur. C'est venu comme ça. Et elle est morte 2 ans après mon mari. Elle avait 39 ans.
Nous serons également en compagnie de Jackie Bonnemain, président de l'association écologique Robin des Bois, qui vient de publier un inventaire des sites militaires pollués en Arctique. À suivre donc dans la deuxième partie de cette émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Le 56e numéro du magazine mensuel Terra Eco est sorti en kiosque le 28 mars dernier. Pour en parler, nous sommes en duplex de Nantes avec François Meurice, directeur en chef de Terra Eco. Bonjour François Meurice.
Bonjour Igor, bonjour à tous.
Alors un 56e numéro consacré à la marche.
Oui, nous avons décidé ce mois-ci de faire un pas de côté en parlant de la marche à pied. Alors pas seulement de la randonnée, bien sûr, en parlant un petit peu, mais en parlant de ce que la marche à pied peut nous rapporter à nous, êtres humains basiques dotés de deux jambes et qui l'oublions un peu trop souvent. Bien sûr, à notre santé, à notre porte-monnaie et même à la planète, parce que marcher, c'est bon pour tout, c'est un petit miracle, même quand on ne marche pas sur l'eau.
Et oui, dans son édito, d'ailleurs, Walter Bouvet, le directeur de la publication, le rappelle, 10 000 pas quotidiens suffiraient à faire de nous des êtres en bonne santé. Et d'autre part, le modèle français qui a tendance à favoriser le diesel est sans doute à revoir malgré les intérêts en jeu. C'est bon de le rappeler parfois, ça, François Meurice.
Eh oui, on l'oublie un peu trop souvent. Comme on oublie qu'on a des pieds, on oublie que, évidemment, le tout voiture en ville et même à la campagne, c'est au détriment de notre santé et de notre corps.
Alors, en ces temps de pic de pollution à Paris et ailleurs, vous êtes pile dans l'actualité. Alors, marcher, c'est bien. Encore faut-il que l'espace dans lequel nous vivons soit approprié à la marche. Et justement, vous nous proposez un gros plan sur la ville espagnole de Bilbao, dans le Pays Basque.
Oui, nous avons fait ce reportage à Bilbao. Alors c'est sûr que peut-être que les gens qui connaissent la ville voient le secteur piétonnier qui est juste devant le musée Guggenheim où on peut marcher, mais c'est dans toute la ville qu'on peut marcher. Alors on le sait peut-être pas forcément, mais jusque dans les années 90, la ville basque de Bilbao était une ville très industrialisée avec beaucoup de sidérurgie et c'était l'empire du tout voiture et certainement pas de la marche. Mais petit à petit, il n'y a pas forcément eu de grande politique globale pensée par la mairie ou par les autorités locales, mais petit à petit, avec de la microchirurgie en quelque sorte dans chaque quartier, la ville s'est remise au pas. Et aujourd'hui à Bilbao, la paire de jambes est de loin le moyen de transport le plus utilisé, très très loin devant la voiture. D'après les statistiques officielles, il y a près de la moitié des habitants de Bilbao qui se déplacent à pied et seulement un tiers en voiture.
Pensez que d'autres villes pourraient s'inspirer de ce modèle, François Meurice?
Alors on y arrive peu à peu. C'est vrai que c'est rare aujourd'hui, notamment en France, que les centres-villes n'aient pas au moins une partie de leur centre-ville piéton, mais c'est vrai que Bilbao a fait très fort, avec 100% de voies piétonnières dans le centre-ville, et même la ville est un circuit de GR, un circuit de grande randonnée, donc on va retrouver les signes blancs et rouges bien connus des randonneurs.
Le reportage du mois, il est signé Mathilde Auvillain, il nous emmène à Naples, où depuis plus de 20 ans, la population subit la loi de la Camorra, la mafia napolitaine, qui enfouit les déchets un peu partout dans la région, où les traite par le feu, c'est selon, faisant courir de graves risques à la population. Et quand un membre de la mafia rencontre un maire pour lui proposer ses services, eh bien ça ressemble un peu à ça.
Ah,
Combien pour le traitement des déchets?
Aujourd'hui, je paie 50. Quelle est votre offre?
Notre société peut diviser le coût par deux, 25 centimes le kilo.
Ah, c'est bien. Mais c'est clean, comme on dit aux États-Unis?
Oui, qu'il s'agisse des déchets toxiques, certificats, stockage, transport.
Vous avez un contrat à me faire lire?
Oui, bien sûr. Si vous avez des doutes, sachez que le cycle s'achève dans les décharges de Marchianise.
Ah, je vous remercie de l'information, mais je veux juste savoir si c'est clean.
On peut traiter les déchets que vous produisez sur l'année.
800 tonnes.
Oui, 800 tonnes, aucun problème.
C'est la transparence totale, à ce que je vois.
Absolument.
Et vous aurez sans doute reconnu les extraits du film Gomorra de l'italien Matteo Garrone qui parle de ce trafic de déchets organisé par la mafia napolitaine. Et c'est vrai que ça fait froid dans le dos, François Maurice, parce qu'on peut imaginer que ça se passe quasiment comme ça, vu le reportage qu'on lit dans Terra Eco ce mois-ci.
Oui, ça a l'air d'être quasiment au vu et au su de tout le monde. Alors c'est fait surtout la nuit, c'est-à-dire que le modus operandi est assez simple. On dépose des déchets qui vont polluer les terres et les nappes phréatiques. Au-dessus, on recouvre tout cela d'une petite couche de terre arable, puis on met un pneu ou deux, voire un peu plus, on met le feu et tout disparaît comme ça, sauf que justement, dans la terre et les nappes phréatiques, la pollution s'insinue petit à petit et les statistiques sanitaires sont vraiment catastrophiques dans la région de la Campanie autour de Naples. Les autorités doivent bien avouer qu'il y a une hausse de plus de 40% des morts par cancer avec des tumeurs très étranges dans cette région.
Pourtant, François Meurice, en 97, on se rappelle que le report Carmine Schiavone révélait déjà au magistrat l'ampleur de la catastrophe. Selon lui, la majorité des habitants de la région de Caserte risquaient de mourir dans les 20 années à venir. Mais rien n'a été fait pour les protéger finalement.
Oui, effectivement, notre reporter Mathilde Villain parle de 20 ans d'immobilisme et d'omerta. C'est vraiment ce qui se passe. On a même eu des déclarations assez sidérantes de la ministre de la Santé qui expliquait ses problèmes de santé par le mode de vie particulier des Napolitains. Ce qui fait évidemment hurler les populations locales qui se demandent bien quel est leur mode de vie quand tout simplement on met dans leur terre et leur nappe phréatique des déchets toxiques. C'est assez hallucinant. Alors ça bouge un petit peu quand même ces derniers temps. En novembre dernier, une manifestation géante a réuni entre 60 et 100 000 personnes dans les rues de Naples. Au début, les politiques n'ont pas trop réagi, puis ils ont bien dû se rendre compte qu'il se passait quelque chose. Donc là, ça bouge un petit peu, mais il est grand temps, voire il est trop tard.
Et alors, on apprend, chose assez étonnante, qu'en France, une figure du grand banditisme, justement, Jean-Claude Hornec, faisait la même chose dans l'est de Paris. Il a été écroué début mars. Ça, c'est surprenant. En France, il se passe la même chose.
Oui, il se passe la même chose. C'est vrai que c'est un petit peu facile, un petit peu cliché, mais on a toujours tendance à se dire, bon, c'est Naples, c'est la Camorra, c'est la mafia, c'est des choses qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais les figures du grand banditisme français, comme à chaque fois qu'il y a des grands flux de marchandises, qu'elles soient légales ou illégales, évidemment, le grand banditisme ou les mafias essayent de se greffer dessus. Et a priori, donc un système plus ou moins similaire a été démantelé il y a quelques semaines dans l'est de Paris, donc avec cette figure du grand banditisme, Jean-Claude Hornec.
L'entretien du mois, eh bien, c'est un entretien de Cécile Cazenave avec le moine bouddhiste Mathieu Ricard, qui vient de publier un plaidoyer de l'altruisme aux éditions Nil. Un ouvrage, alors, gros, hein, 900 pages, avec quelques chapitres consacrés à l'environnement. Alors, je vais vous poser la question que pose Cécile Cazenave à Mathieu Ricard. Qu'est-ce qui lie altruisme et environnement?
Alors je vais essayer de ne pas trop trahir la pensée de Mathieu Ricard, mais en gros, en quelques mots, ce que dit le moine bouddhiste, c'est que l'altruisme et l'environnement ont quelque chose à voir dans la perception que l'on a des générations futures. C'est-à-dire que les questions environnementales, bien sûr, elles sont de plus en plus importantes au jour le jour, mais elles seront vraiment fondamentales dans quelques dizaines d'années. Donc quand on pense à l'altruisme, c'est la personne à côté de nous, mais c'est aussi les générations futures. Ce sont nos enfants, nos petits-enfants, mais aussi les enfants et les petits-enfants des autres, ceux qu'on ne connaît pas. Et donc c'est là qu'il y a le lien entre environnement, entre protection de l'environnement et altruisme.
Voilà, et Mathieu Ricard pose la question, avons-nous de la considération pour les générations à venir? Pour finir, deux petites brèves. Alors bon, c'est toujours pas très réjouissant, mais malheureusement, c'est comme ça. On apprend que la prochaine catastrophe nucléaire se produira soit en France, soit au Japon. Et puis, il n'y aura bientôt plus de cygnes à New York.
Oui, alors la première citation est signée du dernier agriculteur qui vit dans la zone contaminée par l'accident de Fukushima. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu pessimiste. Évidemment, il a vu les dégâts et les ravages autour de lui provoqués par cet accident nucléaire. Donc, selon lui, comme au Japon et en France, il y a énormément de réacteurs nucléaires.
Le 54 au Japon, 58 en France, il est précis. Hein.
Voilà. Et donc, l'accident a déjà eu lieu au Japon. Selon lui, malheureusement, le prochain, c'est pour la France. Croisons les doigts pour que ça ne soit pas le cas. Mais en tout cas, c'est son opinion. Et effectivement, donc sur les signes, c'est une petite brève que nous signalons. À New York, le nombre de signes tuberculés, c'est une espèce de signe bien particulière, mais ce nombre de signes a triplé en 30 ans. Ce sont des signes qui viennent d'Europe. Et du coup, le département de l'environnement de l'État de New York n'en peut plus de ces signes et imagine de les exterminer, tout simplement. Ils pourraient disparaître de la surface de l'État de New York d'ici à 2025.
Eh bien, merci beaucoup, François Meurice. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine mensuel Terra Eco, le média qui change le monde. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le slogan. Vous retrouvez tous les sujets dont on vient de parler dans le numéro d'avril, sorti le 28 mars dernier. Un grand merci aux équipes techniques de France Bleu Loire-Océan qui assuraient ce duplex. Et alors, on parlait de risques nucléaires en France ou au Japon. Eh bien, restez avec nous. Juste après une petite pause musicale, on va revenir sur une autre catastrophe nucléaire bien réelle, celle-là. C'était Tchernobyl. Le 26 avril 1986, au cours d'une expérience d'amélioration de sécurité, un réacteur de la centrale de Tchernobyl explose et provoque la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire.
Pripyat se trouve à moins de 3 km du réacteur accidenté. C'était une ville de 48 000 habitants, construite spécialement pour les ouvriers de la centrale. L'accident s'est produit dans la nuit. Au matin, la population ne s'est aperçue d'aucune anomalie. Et les habitants de Pripyat commencent leur journée comme si de rien n'était. La radioactivité est mesurée, mais aucun ordre d'évacuation n'est lancé. Les taches blanches, sur l'image, sont provoquées par la radioactivité qui traverse la chambre noire de la caméra et voile la pellicule. Elles indiquent la violence des rayonnements qui s'abattent sur la ville. L'ordre d'évacuer a été donné 2 jours après l'accident. Le responsable des autorités s'en est expliqué plus tard. Les instructions précises avaient été annoncées. Fermez les fenêtres, restez dans les maisons. Par conséquent, pour nous, l'irradiation de la population a été négligeable. Une légèreté coupable.
Bonjour Alain-Gilles Bastide.
Bonjour.
Vous êtes photographe, vous êtes allé à Tchernobyl en 2005. Ce reportage vous a marqué. Aujourd'hui, 28 ans après la catastrophe, vous sortez avec un collectif d'auteurs un livre DVD pour une opération humanitaire, Tchernobyl Forever. Pourquoi une telle démarche 28 ans après ?
Parce que quand on est allé là-bas, en fait, on y est allé aussi pour toujours, quoi. Et c'est quelque chose qui reste là. Et quand on est allé sur le terrain et qu'on a vu l'état réel des choses, qu'on a rencontré des témoins qui vivent toujours là-bas, on est toujours quelque part avec eux et on a envie de leur filer un coup de main, quoi, si c'est possible, quoi.
Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, justement, lors de votre séjour à Tchernobyl et dans les territoires contaminés?
Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'abandon de ces gens-là, qui sont confinés dans des zones que l'on appelle le laboratoire de l'enfer ou le triangle de la mort, ça dépend. Ces gens sont là, sont des cobayes de ce laboratoire et ne voient personne. Et puis le visage des enfants, le regard des enfants, il y a une tristesse, il y a une chape de plomb qui est vraiment à couper le souffle.
Alors, ce livre DVD contient donc des photos, des vidéos, des témoignages parfois inédits en France. C'est important justement de continuer d'apporter de nouveaux témoignages au grand public justement.
Ben oui, je crois que c'est très important, d'autant plus que peu de gens savent que la première mission de l'armée, quand elle était intervenue donc sur la zone de Tchernobyl, et la première mission dont était chargée l'armée, c'était d'éliminer ce qui sert à faire des photographies.
Il fallait pas laisser de traces.
Et depuis, c'est devenu, si vous voulez, la première préoccupation des autorités de l'AIEA.
Donc l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Ouais. D'effacer toutes les traces, quoi. Il faut s'imaginer que s'il n'y avait pas les témoignages sur le terrain de gens comme Svetlana Alexievitch, qui a écrit La Supplication, chronique après l'Apocalypse, qui réunit des tas de témoignages de gens tout de suite après l'explosion et est allée sur les années qui ont suivi. S'il n'y avait pas ce travail-là, on saurait presque rien. Au niveau photo, il n'y aurait que les photos de Costine, et je dirais c'est pas grand-chose. Sans le travail de Paul Fusco, il a fait un livre qui s'appelle Tchernobyl Legacy, et lui est allé dans l'hôpital pour enfants de Gomel, dans l'hôpital de Novinsky, etc., et a photographié tous ces enfants.
J'allais vous demander les conséquences pour les enfants aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui encore, on peut ressentir les conséquences de cette catastrophe de Tchernobyl.
Ah ben oui, parce que c'est exponentiel, les malformations, les problèmes génétiques, etc. C'est quelque chose d'exponentiel. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous regardez un graphique qui est aussi dans le livre, sur le Bélarus, en 85, donc un an avant l'explosion, vous aviez là-bas 92% de la population, toute confondue, saine. Et donc une dizaine de pourcents de gens malades. Vous voyez après l'explosion de la catastrophe et vous voyez comment ces courbes se croisent. Et aujourd'hui, vous avez 100% de la population malade. 95, 96%, enfin bon, là on joue sur des choses, bon, tout le monde est malade, donc voilà, dans une dictature où aujourd'hui il est impossible d'avoir quelque information que ce soit, si ce n'est par cette association Belrad, donc c'est la seule organisation indépendante qui s'occupe de ses enfants sur le terrain. À elle seule, elle s'occupe de 25 000 enfants. Elle leur donne des cures de pectine, elle surveille là où ils vivent, etc. Elle essaie d'améliorer leur sort. Et c'est avec ces gens-là qu'on a articulé notre campagne. Donc
cette opération sera réalisée en s'appuyant sur une plateforme de financement participatif. Alors, comment participer justement? Puis, combien espérez-vous récolter et pourquoi faire finalement? Expliquez-nous.
Pourquoi faire, c'est clair, c'est pour aller servir,
accompagner cette seule et unique...
Voilà, et que cet argent serve aux enfants sur le terrain. Il n'y a pas un centime qui n'ira pas au profit des enfants sur le terrain. Si vous voulez, pour réaliser ce livre, il y a un DVD avec dedans trois films, puis des bonus, et tous les auteurs ont fait don de leurs droits d'auteur pour cette association, pour les enfants de Tchernobyl en Bélarus. L'opération est en deux phases. Il y a la phase 1 qui est l'édition du livre et du DVD, qui coûte, parce que ça a des coûts de production, 27 500 euros exactement, qu'il faut réunir pour pouvoir les réaliser.
Et alors pour participer, comment on fait justement? C'est un financement participatif.
Donc on va sur le site de Ulule.
U-L-U-L-E, vous trouvez toutes les informations sur le site de RFI.
Et donc, dans 3 ans, c'est facile à souvenir. Et là, vous tapez Tchernobyl Forever. Et de toute façon, notre projet est actuellement le plus populaire sur Ulule. Il est très bien accueilli par le public. On est déjà à 38% de récolte de fonds. Et une fois le produit terminé, on le donnera à l'association Les Enfants de Tchernobyl Bélarus, qui elle va le vendre entre guillemets dans une campagne humanitaire où elle dira aux gens, pour 30 euros recevez le livre DVD, pour 20 euros recevez le DVD. Et là, ben, ça représentera grosso modo 120 000 euros, quoi. Donc ça veut dire que on aura réussi, en se bougeant comme on se sera bougé, à faire passer 120 000 euros là-bas pour les enfants sur le terrain. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le tiers du budget de Belrad annuel, quoi. Donc c'est quand même assez significatif.
Eh bien, merci beaucoup Alain-Gilles Bastide d'avoir accepté notre invitation. Tchernobyl Forever, c'est un livre DVD pour les enfants exposés de Tchernobyl. Restez avec nous. Dans la deuxième partie de C'est pas du vent, nous parlerons du problème des déchets toxiques des bases militaires avec un reportage aux Philippines. Mais tout de suite, un nouveau journal sur RFI.